La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite maintenant à prendre vos Bibles. Dans le livre des Psaumes, au chapitre 87, dont Yann nous fera la lecture.
La ville qu'il a fondée sur les montagnes saintes, la ville de Sion, l'Éternel l'aime plus que toutes les demeures de Jacob. On a dit sur toi des choses glorieuses, ville de Dieu. Je mentionne l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, ainsi que l'Éthiopie. C'est là qu'ils sont nés. Mais de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fondé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi.
C'est une joie pour nous d'être de nouveau ensemble ici après quelques semaines d'absence. Sabbat dernier, je me trouvais dans la propriété de la Fédération du Sud, au Moulin de l'Hérole, près d'Anduze, pour une rencontre qui rassemblait des croyants d'origine musulmane. Certains d'entre eux étaient devenus chrétiens, certains devenus chrétiens adventistes, certains musulmans ouverts, incertains sur les choix qu'ils devaient faire. Ce fut une rencontre extrêmement intéressante et qui nous oblige forcément à réfléchir. Le Seigneur de la Bible est un Dieu qui veut rassembler ses enfants venant de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. D'ailleurs, c'est exprimé dans ce verset si connu par les adventistes qu'ils en ont fait presque la description anticipée par l'apôtre Jean de la mission adventiste. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, vous connaissez ce verset qui présente le premier des trois anges. « Et je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, à toute tribu, langue, peuple et nation. » Et évidemment, si l'ange est invité à proclamer l'évangile à la diversité de l'humanité représentée par ses langues, ses tribus, ses peuples et ses nations, l'Église doit être aussi constituée d'une diversité de langues, de peuples, de nations, de tribus. C'est vrai que cette situation de pluralisme national, linguistique, tribal, ethnique pose un certain nombre de problèmes, représente un certain nombre de défis pour la vie à l'intérieur de l'Église. Et je sais que ce sujet est très souvent considéré comme un sujet tabou, qu'on ose l'aborder, et pourtant, c'est un sujet très important, c'est un sujet qui est déterminant pour notre mission, notre vivre ensemble, et le témoignage que nous rendons en tant qu'Église, ici à Damary, comme ailleurs, dans notre pays. C'est vrai que quand on réfléchit à cette question de la pluralité, on ne peut oublier ces versets comme ceux que l'on trouve dans l'épître de Paul aux Galates, et comme ce matin j'ai beaucoup de difficultés à lire, je vais vous demander votre aide. Je vais demander à quelqu'un d'ouvrir sa Bible et de lire à haute voix dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3, les versets 27 et 28. Galates, chapitre 3, versets 27 et 28. Et je demanderai que la personne qui osera lire le fasse à haute voix pour qu'on puisse bien comprendre ce que l'apôtre Paul a écrit là.
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Merci. Il est vrai qu'un texte comme celui-ci est un texte qui nous interpelle, qui nous invite à faire table rase des différences qui nous marquent les uns et les autres. Lorsqu'on entre dans l'Église, lorsqu'on est baptisé pour faire partie de l'Église, l'apôtre emploie une image, c'est comme si on s'habillait avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme si chacun de nous devenait le Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, on ne voit plus que le Christ au travers de chacun de nous. Pourtant, dans l'Église primitive, il y avait encore des esclaves et des hommes libres. Puisque dans plusieurs autres lettres, l'apôtre Paul s'adresse aux esclaves, s'adresse aux propriétaires d'esclaves. Dans l'Église primitive, il y avait au départ uniquement des juifs. Et puis, petit à petit, se sont ajoutés des non-juifs. On nous explique dans le livre des Actes que les premiers véritables non-juifs se sont convertis dans une ville qui aujourd'hui se trouve en Syrie, dans un endroit qui est bousculé par la guerre depuis plusieurs années et qui est une source de préoccupation pour la diversité de nos populations. Parce que des gens fuient la guerre, parce que des gens essaient de se réfugier ailleurs, parce que des gens essaient, à travers leur cheminement sur cette planète, de trouver un endroit pour vivre en paix, en sécurité, et évidemment en se confrontant à des hommes et des femmes qui ont d'autres habitudes, d'autres cultures, d'autres langues, et rendent très concret ce défi de vivre ensemble avec nos différences. Alors c'est vrai, les différences ne devraient plus exister dans l'Église. Pourtant, l'apôtre Paul va très loin, il va jusqu'à dire « Il n'y a plus ni homme ni femme ». Et même si je vois mal, je crois quand même qu'il y a une différence entre hommes et femmes parmi nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Comment gommer des différences qui restent ? Comment ne pas tenir compte de situations qui, certes, dans l'idéal chrétien, ne doivent pas peser dans nos relations, mais qui, dans la réalité concrète, pèsent quand même ? Et il ne faut pas s'imaginer que ce problème est un problème récent, un problème qui vient de surgir à cause de la guerre en Syrie ou des troubles en Irak ou en Afghanistan ou ailleurs. C'est un problème très ancien. Je vais demander à quelqu'un d'autre de faire une lecture. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6, le verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 6, le verset 1er. Et nous allons prendre la conscience que le problème existait déjà dans l'Église primitive. Quelqu'un nous lit ce verset 1 du chapitre 6.
En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour.
Merci. On constate avec surprise que dans cette église primitive de Jérusalem, il y avait deux catégories de personnes. Les premières sont appelées des hellénistes et les deuxièmes des hébreux. Et cette différence, quand on essaye de comprendre en quoi elle consiste, est assez simple. C'était tous des juifs d'origine, mais certains avaient appris la langue grecque, s'étaient plus ou moins accoutumés aux habitudes, à la culture grecque de cette époque qui avait envahi tout le bassin méditerranéen, et d'autres résistaient à cette acculturation à la pensée grecque. Et leur résistance était très forte au point qu'ils voulaient ne pas perdre la connaissance de la langue hébraïque qui devenait une langue morte. Au point qu'ils n'acceptaient pas qu'on donne des noms grecs à leurs enfants. Et pourtant, parmi les disciples que Jésus avait réunis, et au sein desquels il en avait choisi 12 pour faire des apôtres, des envoyés, il y en avait un qui s'appelait Philippe, comme il y en a plusieurs dans notre Église. Et Philippe, vous devez savoir ce que cela veut dire. Phil, cette racine qui donne la philosophie, mais quantité d'autres choses, c'est l'amour, l'amitié. Et hip, eh bien, vous savez très bien, c'est l'hippocampe, l'hippopotame, c'est hippo, c'est le cheval, ce sont les courses hippiques. Et celui qui aime le cheval, alors on ne parle pas ici de boucherie, de choix alimentaire. On parle là de quelque chose qui représente un mode de vie. Et si vous vous souvenez de ce que disent les prophètes de l'Ancien Testament, à maintes et maintes reprises, ils préviennent les rois d'Israël. Ne comptez pas sur la force de la cavalerie. N'ayez pas des armées avec des chars tirés par des chevaux que vous allez acheter en Égypte. Comptez sur Dieu. Et le cheval était perçu comme un animal qui représentait presque la méfiance, le manque de confiance en Dieu. Et appeler son fils en Israël à cette époque Philippe, celui qui aime le cheval, c'est presque un sacrilège pour les uns. Surtout qu'on apprend par les historiens qu'à cette époque, les Romains qui maîtrisaient le monde avaient l'intention de construire à Jérusalem un hippodrome pour organiser des courses de chevaux et que la résistance se faisait au sein du peuple fidèle de Dieu pour éviter un tel scandale, des courses hippiques dans la ville de Dieu. Mais c'est quelque chose d'inadmissible. Et donc il y avait dans l'Église primitive un conflit entre ces deux types de croyants. Les uns qui acceptaient de donner des noms grecs à leurs enfants, qui se, d'après les autres, laissaient influencer par la pensée contemporaine envahissante qui gagnait le monde de l'époque, et les autres qui résistaient à cela. Et l'Église était composée de cette variété de populations. Et évidemment, quand il y a des populations variées, des groupes différents, il y a des occasions d'affrontement. Là, les uns ont l'impression d'être négligés dans le service que l'on offre aux veuves qui sont en difficulté. Alors oui, les conflits, les difficultés de relations entre groupes humains différents existe dans l'Église chrétienne, malgré ce qu'a dit l'apôtre Paul. Et il nous faut reconnaître que ce n'est pas parce que 20 siècles se sont écoulés que nous avons réussi à nous débarrasser de ces conflits. Alors réfléchissons un petit peu. Je vais prendre mon exemple. Je suis un homme. J'appartiens donc au groupe des hommes. Et il y a dans cette salle un certain nombre de femmes qui n'appartiennent pas au groupe des hommes. Il peut donc y avoir des conflits entre les hommes et les femmes au sein de cette communauté. J'appartiens au groupe des personnes qui portent des lunettes. Il y en a qui n'en portent pas. Et il y a une différence entre ceux qui portent des lunettes et ceux qui n'en portent pas. Les uns ne risquent pas de les oublier, les autres les perdent, ne savent pas où les mettre et parfois les gardent sur leur nez, comme moi, même quand ils ne peuvent pas s'en servir. J'appartiens aux blancs, alors qu'il y en a d'autres qui sont appelés des noirs. J'appartiens à un groupe qui n'est pas forcément celui des autres. J'appartiens aux Français et il y en a d'autres qui, dans cette salle, viennent d'autres nations. Il y a des Italiens, des Portugais, il y a, comme dans le groupe où j'étais la semaine dernière, il y avait des Marocains, des Tunisiens, des Algériens, mais il y avait aussi des Français, des Allemands, il y avait toute une variété de gens. Nous appartenons à des peuples, à des nations différentes. Et c'est sûr que nous faisons tous partie d'un certain nombre de groupes ou de sous-groupes à l'intérieur de l'Église. Et l'être humain, pour vivre à l'aise, a besoin à la fois d'appartenir à un groupe, de s'y sentir intégré, d'y avoir sa place et de s'y sentir à l'aise avec des gens qui ont une expérience commune, qui réfléchissent de la même façon, qui ont une culture similaire. C'est ce qui permet un certain confort social dans la relation avec les autres. Et pourtant, nous avons tous un besoin qui s'oppose à celui-là, c'est d'être distingué du groupe, de ne pas être juste fondu dans une masse, mais être soi-même l'individu que Dieu a fait avec ses particularités, qui le distingue de tous les autres, même de tous les groupes auxquels il appartient. Certains pourraient dire que j'appartiens au groupe des intellectuels. Oui, c'est vrai, c'est possible. Je fais partie du groupe des retraités, je fais partie du groupe des pasteurs, je fais partie du groupe des Français, je fais même partie du groupe des Auvergnats, figurez-vous. Et c'est vrai que, avec toutes ces particularités qui font que j'appartiens à des groupes différents, j'ai des réactions qui sont les miennes. Elles sont marquées par l'éducation que j'ai reçue, par la famille au sein de laquelle j'ai été élevé, mais aussi par toute l'expérience qui a été la mienne, qui m'a permis de travailler en Afrique subsaharienne, mais aussi au Maghreb, qui m'a permis de m'habituer à fréquenter une Suissesse. C'est pas toujours facile entre Français et Suisses, vous savez. Mais tout ceci nous apprend une chose. C'est que quand l'apôtre Paul nous dit « il n'y a plus », il ne veut pas dire que les choses sont supprimées, que tout d'un coup nous sommes tous devenus des hermaphrodites et plus des hommes et plus des femmes, que tout d'un coup nous sommes tous devenus des Français ou des Chinois, des Russes ou des Américains. Il ne veut pas dire que tout d'un coup nous parlons tous la même langue avec la même aisance. Il ne veut pas dire que toutes ces différences sont supprimées, mais ce qu'il veut dire, c'est que ces différences ne doivent pas nous séparer, ne doivent pas nous changer en ennemis, ne doivent pas être la source d'hostilité, mais au contraire, doivent nous permettre de nous enrichir les uns avec les autres, les uns des autres, les uns pour les autres. Alors c'est vrai, on peut se demander concrètement quelle est la recette à appliquer pour que cela se réalise vraiment. Eh bien, il n'y a toujours qu'une seule recette pour améliorer les relations entre les êtres humains. Cette recette, c'est celle qu'on résume en un mot, dialoguer, parler, faire connaissance, se fréquenter, être les uns avec les autres, partager, apprendre à connaître la culture de l'autre, une partie au moins de la langue de l'autre, une partie de la conception de l'autre. Et vous savez, c'est intéressant dans notre Église. Quand vous voyagez, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal dans mon ministère, vous vous rendez compte que les adventistes des différents endroits du monde n'ont pas la même conception du sabbat, de ce que l'on peut faire le sabbat, de ce que l'on doit faire ou ne pas faire le sabbat. Et que finalement, la plupart de ces différences sont des questions d'éducation, sont des questions de culture, d'habitudes locales que l'on a prises ou d'enseignements locaux que l'on a reçus ici ou là. Et ce n'est qu'en dialoguant que nous pouvons nous en rendre compte et que nous pouvons apprendre à nous comprendre, à nous respecter, à fraterniser, à faire que toutes les différences qui font que notre Église est composée de groupes variés soient non pas l'occasion d'hostilité, mais de fraternité toujours plus grande. En tout cas, il est important de savoir que le Seigneur Jésus a prié pour que nous trouvions des solutions à ce problème. Et là aussi, j'aimerais que quelqu'un relise un extrait de la prière du Seigneur Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 20 et 21. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 et 21.
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Et vous remarquez que dans cette prière de Jésus, il donne aussi la solution fondamentale à ce problème. Si nous voulons créer l'unité entre les différents groupes que nous représentons les uns et les autres, il nous faut nous rapprocher du Christ. Il nous faut faire un avec lui, cause commune avec lui, adopter ses valeurs, tenter de les respecter, de les vivre vraiment. Et en les vivant, nous découvrirons à quel point il est important de travailler à l'unité, à la fraternité. Alors c'est vrai que nous pouvons, face à ce défi, avoir l'impression que nous réussissons peut-être mieux que d'autres. En tout cas, je suis conscient que personnellement, je peux avoir des réactions qui ne sont pas les bonnes à certains moments, dans certaines situations, qui sont contraires à celles que j'aimerais avoir. Il nous faut donc apprendre aussi à confesser nos limites, nos tendances. Et ces tendances, encore une fois, elles reposent sur nos besoins fondamentaux, nos besoins d'être intégrés à des groupes et nos besoins d'être distingués, d'être nous-mêmes avec ce que nous sommes individuellement. Et quand nous regardons les autres avec leurs besoins, il est beaucoup plus facile d'accorder le pardon, de recevoir le pardon, de demander pardon pour les erreurs que nous pouvons commettre dans ce domaine de relations culturelles, nationales, tribales ou linguistiques. Ce que Jésus a essayé de faire et pourquoi il a prié, ce que l'apôtre Paul a déclaré en disant qu'en Christ, il n'y a plus ces différences, ou en tout cas, elles ne sont plus source de difficultés ou d'hostilité, n'est pas une nouveauté. Si vous avez été attentif au psaume 87 que Yann nous a lu tout à l'heure, vous avez peut-être trouvé là un texte très curieux, où on vous dit à la fois que le Seigneur est amoureux fou de la ville de Jérusalem, que Jérusalem vraiment se distingue parmi toutes les autres villes du monde. Et évidemment, nous pourrions commencer à nous plaindre et à dire « Mais nous ne sommes pas à Jérusalem, nous sommes à Damarie. Alors nous, il ne nous aime pas, il nous laisse de côté, il nous abandonne. » Et puis, plusieurs d'entre vous sont des visiteurs et viennent d'ailleurs. Est-ce que Dieu n'aime que la ville de Jérusalem ? C'est assez extraordinaire de voir que dans ce psaume, le poète commence à dire, en commençant par les Égyptiens, puis les Babyloniens, puis les Philistins, puis les Éthiopiens, il va dire, ces gens-là, ils ont beau être nés quelque part ailleurs, c'est comme s'ils étaient nés à Jérusalem pour Dieu. Et ce psaume va se terminer en nous disant que tous les êtres humains sont nés à Jérusalem, dans la ville chérie de Dieu, ce qui est une façon très imagée de nous dire que personne d'entre nous ne doit se faire des complexes d'infériorité à cause d'un groupe ou de l'autre auquel il appartient, à cause de tel ou tel défaut physique ou handicap qu'il a, à cause de son sexe ou de son âge, à cause de sa forme ou à cause de la couleur de sa peau, de ses cheveux ou de ceci ou de cela. Tous, pour Dieu, nous sommes nés à Jérusalem. Ou comme l'apôtre Paul le redira, Tous, nous avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Et ces textes, même s'ils emploient des mots différents, disent exactement la même chose. Humains que nous sommes, avec nos limitations, nos besoins, nos faiblesses, nous sommes tous enfants de Dieu, aimés par Dieu. Et cet amour doit nous faire nous conduire en frères, en sœurs, quel que soit le groupe ou les groupes dans lesquels nous nous reconnaissons, avec cette certitude que pour Dieu, nous sommes tous ses enfants, ceux qu'il veut voir s'enrichir mutuellement par une relation fraternelle. Et si vous avez remarqué ce qu'a dit Jésus dans sa prière, « Afin que le monde croie que tous soient un. » Et notre défi, c'est que dans une société comme la nôtre, où en permanence on nous dit qu'il y a des conflits à cause des différences, qu'on se bat sur telle plage de Corse à cause de la différence de nationalité, d'origine, de vêtements ou de conception des choses, qu'on se batte dans tel autre endroit du monde avec telle ou telle autre raison que l'on se donne. L'Église doit être un témoin de l'efficacité de la parole de Dieu et sa crédibilité en tant que porteuse de l'Évangile aujourd'hui, c'est de démontrer, comme dit Apocalypse 14, 6, que l'Évangile permet à toute nation, tout peuple, toute langue et toute tribu de vivre dans la paix, de vivre dans la joie, de vivre dans une vraie fraternité sans limite. Amen.